VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous, il est 19h30 temps universel, Le Monde Aujourd'hui, édition du mardi 11 avril 2017, Morgane Gaillac en direct de Washington DC. Au sommaire ce soir, République démocratique du Congo, la police a arrêté des dizaines de personnes hier lors d'une manifestation anti-Kabila. Le Guinéen Alpha Condé, dernier président africain reçu à l'Élysée par François Hollande, qui a fait ses adieux. Avertissement de l'ONU, la famine risque d'entraîner un nombre important de morts sur le continent. Et puis, le secrétaire d'État américain Rex Tillerson à Moscou, la Syrie sera au centre des discussions. On retrouve Nicolas Pinot à la fin de ce journal pour les sports et Clermont-Jean Gibourg pour la Minute Éco. D'abord, le journal. République démocratique du Congo, la police a arrêté des dizaines de personnes hier lors d'une manifestation de l'opposition peu suivie dans le pays. L'UDPS avait appelé à s'opposer au président Kabila. Eric Manirakiza nous en dit plus.
Manifestation ratée ou ville morte et réussie, des gens ont tenté de braver l'interdiction de la manifestation par les autorités. À Kinshasa, la capitale, 34 personnes sont en garde à vue. Le porte-parole de la police a indiqué que leur sort sera connu dans la journée. Il n'a pas donné de détails sur d'autres arrestations ailleurs dans le pays. Par contre, le directeur de l'Institut de recherche pour les droits de l'homme à Lubumbashi, deuxième ville du pays, parle de 24 interpellations. Hubert Chiswaka affirmait que seul un activiste de la société civile, Jean-Pierre Muteba, a été inculpé pour rébellion et offense au chef de l'État, puis transféré au parquet. À Goma, 6 jeunes ont été libérés peu après leur interpellation, survenue pendant qu'ils tentaient de barricader une rue.
Eric Manirakiza, un sujet sur lequel nous reviendrons plus longuement en seconde partie d'émission. Lutte contre Boko Haram, l'administration Trump devrait faire avancer son plan de vente d'avions de haute technologie au Nigeria, et ce, malgré les préoccupations liées aux abus commis par les forces nigérianes. Les précisions de John Hindon.
Le Congrès devrait recevoir une notification formelle dans quelques semaines, validant un accord avec le Nigeria que l'administration Obama avait voulu sans aller jusqu'au bout. Selon les autorités américaines, le Nigeria pourrait acheter jusqu'à 12 avions légers d'attaque dotés d'un équipement de ciblage sophistiqué pour près de $600 millions. Tous les termes de l'accord n'ont pas été révélés. Le Conseil national de sécurité travaille sur le dossier et le président Donald Trump a clairement indiqué son intention de l'approuver. Les ventes d'armes et d'équipements militaires à plusieurs pays devraient également être approuvées une fois que la Maison-Blanche aura finalisé la revue des différents contrats. Les États-Unis ont suspendu les ventes d'armes au Nigeria et la formation des troupes nigérianes sous le régime de Goodluck Jonathan. Cette décision a été prise suite à des inquiétudes sur les traitements infligés aux civils et aux rebelles arrêtés. Plusieurs ONG ont fait état de mauvais traitements. Abuja a toujours nié ces allégations.
Nigeria, toujours, 2 Turcs ont été enlevés dans le sud du pays. Travaillant pour une société de construction dans la région pétrolifère d'Ona, ils étaient dans leur hôtel au moment de l'incident dimanche. Aucun groupe n'a pour l'instant revendiqué leur enlèvement. Et du nouveau sur l'affaire de l'enlèvement du Novotel en Côte d'Ivoire, 5 peines de prison à vie ont été requises contre des militaires ivoiriens, dont l'une visant l'ex-chef de la garde républicaine, le général Bruno Dogbo. Ils sont accusés pour l'enlèvement de 4 personnes, dont 2 Français, dans un hôtel d'Abidjan, ainsi que leur meurtre en avril 2011. Durant la crise post-électorale, un commando avait fait irruption au Novotel, emmenant notamment son directeur. Le président guinéen à Paris, Alpha Condé, a été reçu par son homologue François Hollande. Le président français a assuré que la France n'intervenait plus comme une puissance tutélaire en Afrique. La France n'intervient pas pour faire infléchir ou pour faire changer des règles politiques, des régimes électoraux, a notamment déclaré François Hollande. Il s'est aussi félicité des bonnes relations entre Paris et Conakry, où il avait été le premier dirigeant occidental à se rendre en pleine épidémie d'Ebola en 2014. Quelques 7 millions de personnes risquent de souffrir gravement de la faim dans la région du bassin du lac Tchad, a prévenu la FAO, qui appelle la communauté internationale à agir de manière urgente. De même, nouvel avertissement des Nations Unies, la famine risque d'entraîner un nombre de morts massifs, en particulier dans la Corne de l'Afrique et au Nigeria, au moment où la sécheresse frappe une partie du continent. Jacques Aristide.
Le Haut Commissariat de l'ONU pour les réfugiés craint que la situation soit pire que lors de la famine de 2011 qui avait tué plus de 260 000 personnes dans la Corne de l'Afrique. Le HCR a dit vouloir éviter à tout prix que cela se répète. La Somalie, le Soudan du Sud et le Nigeria sont en proie à des conflits armés. L'agence onusienne en profite pour parler aussi du Yémen. Confronté au même scénario, l'ONU réclame 4,4 milliards de dollars d'ici juillet pour acheminer de l'aide dans ces pays où plus de 20 millions de personnes font face à la faim ou à la famine. Elle n'a reçu pour l'instant que 984 millions de dollars sans fonds pour acheter la nourriture. Les rations distribuées sont réduites d'après le HCR, comme c'est déjà le cas à Djibouti, en Éthiopie, en Tanzanie, au Rwanda et en Ouganda. Et l'ONU de conclure que la situation humanitaire pourrait encore empirer, d'autant que les enfants plus vulnérables constituent la majorité des réfugiés.
Zambie, le chef de l'opposition Hakainde Hichilema, qui refuse toujours de reconnaître sa défaite à la présidentielle d'août dernier, a été arrêté. Il est accusé de trahison pour avoir perturbé dimanche le convoi du chef de l'État, Edgar Lungu.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
L'état d'urgence approuvé par le Parlement en Égypte. La mesure décrétée par le président Abdel Fattah el-Sissi après des attentats dimanche contre des églises coptes est valable sur l'ensemble du pays. L'Organisation internationale pour les migrations dénonce les marchés d'esclaves en Libye. Les migrants subsahariens, utilisés comme main-d'œuvre servile, sont vendus entre 200 et 500 dollars. L'OIM parle de centaines de personnes et les femmes deviennent notamment des esclaves sexuelles. Le secrétaire d'État américain Rex Tillerson est à Moscou, première visite officielle en Russie depuis son entrée en fonction. La rencontre devrait être dominée par les désaccords sur la Syrie. Nathalie Barge.
Rex Tillerson doit rencontrer mercredi son homologue russe Sergueï Lavrov, mais le Kremlin a dit ce matin ne pas pouvoir confirmer si une rencontre avec le président Vladimir Poutine était à l'agenda. Avant de partir, M. Tillerson a affirmé devant ses homologues du G7 à Lucca en Italie que Moscou devrait revoir son alliance avec le président syrien Bachar al-Assad après une attaque chimique présumée en Syrie. Est-ce une alliance à long terme qui sert les intérêts russes ou la Russie préférerait-elle se réaligner avec les pays qui cherchent à résoudre la crise syrienne, a-t-il déclaré. La diplomatie russe a indiqué avant son arrivée espérer des négociations productives avec le secrétaire d'État, disant rechercher une coopération constructive et non pas une confrontation. M. Tillerson doit également évoquer avec M. Lavrov la crise ukrainienne, la lutte antiterroriste, la Libye, le Yémen, l'Afghanistan et la Corée du Nord.
À noter que les pays du G7, États-Unis, Canada, Japon, Allemagne, Grande-Bretagne, France et Italie affirment qu'aucune solution n'est possible en Syrie tant que le président Bachar al-Assad sera au pouvoir. Et des centaines d'étudiants syriens se sont rassemblés aujourd'hui devant le siège des Nations Unies à Damas pour dénoncer les frappes américaines la semaine dernière sur une base aérienne du régime syrien. Trump soutient le terrorisme, pouvait-on lire sur des pancartes. Les États-Unis, souvenez-vous, ont frappé vendredi avec 59 missiles la base d'Al-Shariat dans la province de Homs en réponse à une attaque chimique présumée à Khan Sheikhoun qui avait fait 87 morts. Le groupe État islamique contrôle désormais moins de 7% de l'Irak. D'après l'armée, les djihadistes combattus depuis des mois par les forces irakiennes et une coalition internationale menée par les États-Unis contrôlaient 40% du territoire irakien en 2014. Attentat de Stockholm, Rakhmat Akilov, un ouvrier ouzbek aux sympathies djihadistes, a reconnu aujourd'hui avoir commis l'attaque au camion bélier et qui a fait 4 morts et 15 blessés. Il est âgé de 39 ans. Attentat en Russie, les services secrets russes prônent un contrôle plus strict de l'immigration. Un appel qui vise des immigrés en provenance d'Asie centrale. Il faut dire que les complices présumés de l'auteur de l'attentat dans le métro de Saint-Pétersbourg sont tous originaires de l'Asie centrale. Et voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. Et on enchaîne sur l'actualité économique en Afrique. Claire Morin-Gibourg, la Minute Éco.
Le président Alassane Ouattara a dénoncé hier, selon ses propres termes, des informations fallacieuses visant le franc CFA à la fin d'une session extraordinaire de l'UMOA qui a eu lieu à Abidjan. « Nous avons constaté que notre monnaie se porte bien, est saine et dans de bonnes mains », a-t-il déclaré. Le franc CFA est la monnaie commune à l'Union économique et monétaire ouest-africaine, dont M. Ouattara est le président en exercice. Pour leur participation au Hajj, les pèlerins camerounais vont devoir mettre davantage la main à la poche. Selon un arrêté du ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, le prix pour le Hajj 2017 a été fixé à 2342 millions de francs CFA pour chacun des 3500 pèlerins, soit une hausse de 282 000 francs CFA. Selon le ministre, de nouveaux services justifient cette augmentation, comme l'installation de tentes modernes et climatisées et la modernisation de logements à la Mecque. En Guinée, Orange a été condamné à payer 10 250 milliards de francs guinéens, soit plus d'un million de dollars pour l'exploitation frauduleuse à des fins commerciales d'une chanson de Kadi Diop. La chanteuse et sa maison de production, Souk Ar, se sont réjouis de cette décision qui protège les droits d'auteur.
Plein feu sur les stades, les sports avec Nicolas Pinault. Bonsoir Nicolas.
Bonsoir Morgane, bonsoir à tous.
Retour de la Ligue des Champions en Europe dès ce soir.
Et oui, le choc ce soir, Juventus de Turin, FC Barcelone, c'est le remake de la finale perdue par les Italiens en 2015. A noter que l'attaquant du FC Barcelone, Neymar, exclu samedi à Malaga pour 2 cartons jaunes, a été suspendu 3 matchs par la Fédération Espagnole de Football. Cela va le priver du Clasico face au Real Madrid le 23 avril prochain. L'attaquant brésilien avait ironiquement applaudi le 4e arbitre en sortant du terrain après son carton rouge. Autre match ce soir, Monaco qui accueille Dortmund.
Et demain, la suite ?
Bayern Munich, Real Madrid, des mauvaises nouvelles pour les Allemands puisque le buteur du Bayern, Robert Lewandowski, touché à l'épaule, est incertain pour ce match, annonce de l'entraîneur munichois Carlo Ancelotti aujourd'hui devant la presse. Le buteur polonais souffre d'une contusion à l'épaule depuis le match de championnat contre Dortmund. Victoire 4 buts à 1 des Bavarois, c'était samedi. Autre match demain, Atlético Madrid, Leicester.
Sanction pour le gardien du MC Alger.
Oui, le gardien du Mouloudia Club Alger, Faouzi Chaouchi, a été condamné à 6 mois de prison avec sursis pour avoir agressé un policier. L'ancien gardien de l'équipe algérienne de football, âgé de 32 ans, était poursuivi pour agression contre un policier chargé de la fouille des joueurs lors d'un match du championnat algérien disputé par son équipe. C'était le 7 février à Alger contre le NAD.
Le public boude-t-il la Coupe de la Confédération en Russie ?
Oui, une faible partie seulement des billets pour la Coupe des Confédérations a été vendue. C'est ce qu'a déclaré Moscou, qui reconnaît que ce manque d'intérêt pour la compétition est problématique. On rappelle que la Coupe des Confédérations se déroulera en Russie du 17 au 2 juillet, un an avant la Coupe du Monde 2018. 200 000 tickets ont été vendus jusqu'à présent, alors que nous espérions en vendre 700 000, a annoncé l'organisateur. On rappelle les 8 pays participants à cette compétition, 2 groupes, Russie, Nouvelle-Zélande, Portugal et Mexique, dans le groupe A, et dans le groupe B, Cameroun, Chili, Australie et Allemagne.
Et puis NBA, championnat de basket nord-américain.
Golden State a chuté devant son public et concédé face à Utah sa première défaite après 14 victoires de suite, 99 à 105. Les Clippers ont dominé Houston, 125 à 96. San Antonio, assuré de terminer deuxième à l'ouest, s'est incliné devant Portland, 98 à 99. Et défaite plus inquiétante de Cleveland à Miami, 121 à 124.
Merci Nicolas.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Morgane Guerriec, en votre compagnie, deuxième partie d'émission, les dossiers du jour. En République démocratique du Congo, le principal parti de l'opposition, l'UDPS, avait appelé les Congolais à manifester hier dans tout le pays. Cette manifestation interdite par les autorités a été peu suivie, sauf quelques tentatives observées dans certaines villes. Le mouvement visait à obliger le président Joseph Kabila à appliquer un accord de sortie de la crise politique du 31 décembre dernier. Pour analyse, Eric Manirakiza a joint à Bruxelles la journaliste spécialiste de la RDC, Colette Brackmann.
Moi, je crois qu'il y a surtout la peur parce que le régime avait interdit tout rassemblement de plus de 10 personnes et il avait montré dans des occasions précédentes, notamment au Kassai et ailleurs, à quel point le dispositif policier ou militaire pouvait être répressif. Au Kassai, il y a de nombreux morts, des jeunes qui ont été victimes de la répression et je crois que les gens à Kinshasa ont surtout eu peur et que donc, tant qu'à faire, ils sont restés chez eux et ils ont observé une journée ville morte plutôt qu'une journée de manifestation dans la rue. Cela étant, je crois que les divisions au sein de l'opposition, le manque de clarté dans certaines positions a aussi poussé les gens à ne pas trop prendre de risques politiques. Même si sur le fond, tout le monde est d'accord pour revenir au respect de la Constitution et surtout au respect des accords de la Saint-Sylvestre, les gens ne sont peut-être pas prêts à exposer leur vie, à mourir pour le rassemblement de l'opposition, ce qu'ils étaient peut-être prêts à faire pour Étienne Tshisekedi qui avait une popularité incontestable.
Mais il y a son fils Félix qui a repris le flambeau.
C'est-à-dire qu'il porte le nom évidemment mythique de Tshisekedi, mais Monsieur Félix Tshisekedi a toujours vécu en Belgique, ne s'est jamais illustré au pays par une activité politique quelconque et n'a pas non plus fait la preuve de ses capacités d'homme d'État, de capacité de Premier ministre à gouverner. Il revendique simplement, si vous voulez, l'héritage biologique de son père, en disant il est le fils de son père et il doit être Premier ministre. Je me rappelle que Monsieur Tshisekedi, lorsque Joseph Kabila est arrivé au pouvoir, a dit le Congo n'est pas une monarchie. Ce qui est vrai, ce n'est pas une monarchie pour la dynastie Kabila, ce n'est pas une monarchie pour la dynastie Tshisekedi non plus.
Est-ce que pour vous, les carottes sont-elles cuites pour l'opposition ?
Pas nécessairement, parce que quand même, l'accord qui a été signé le 31 décembre reste valable, il est important, il est soutenu fortement par la communauté internationale et surtout par l'ensemble de la population qui va exiger qu'on respecte l'esprit et la lettre de l'accord. Cela étant, M. Tshibala est tout de même issu de l'opposition, même s'il s'est rallié au chef de l'État pour une solution de compromis. L'opposition devrait veiller à s'unir à nouveau parce qu'on voit M. Katebe Katoto et Tshibala, d'autres qui se sont distanciés. Mais il faut quand même rappeler que le premier problème est celui du chef de l'État qui n'a pas organisé les élections en temps voulu, dont le pouvoir aujourd'hui n'est plus légitime.
Voilà, de Bruxelles, Colette Brackmann, journaliste.
Le Lubumbashi en RDC sur le 102.8 FM, c'est bien évidemment VOA Afrique, 24h sur 24.
Au Cameroun, les partis de l'opposition se prononcent sur la crise anglophone. Ils appellent à la mise en œuvre de la décentralisation. De Yaoundé, les explications d'Emmanuel Juntap.
En l'espace d'une semaine, des formations politiques majeures de l'opposition au Cameroun ont clairement pris position sur la crise anglophone. La sortie la plus récente étant celle des parlementaires du Social Democratic Front, députés et sénateurs. Jean Tshomelou, le président du groupe parlementaire du SDF au Sénat, résume les solutions proposées par son parti pour décrisper la situation dans les régions du sud-ouest et du nord-ouest du Cameroun.
La libération de tous ceux qu'on a pu arrêter par rapport à la crise anglophone, l'ouverture d'un dialogue national sur les problèmes de notre pays, la convocation d'une conférence constitutionnelle pour réfléchir de la forme de l'État dont nous voulons pour notre pays et l'instauration du fédéralisme qui est pour nous la meilleure forme de gouvernance dans notre pays.
L'approche du MRC sur la question anglophone a été rendue publique par son président Maurice Kamto. C'était au cours d'une conférence de presse. L'ancien ministre du gouvernement Biya, devenu opposant, a souligné la nécessité d'ouvrir une réconciliation nationale sur la crise anglophone. Anissé et Canet est le président du Manidem, une formation politique qui défend l'idéologie nationaliste basée à Douala. sur la crise anglophone, le Manidem pose sur la table l'urgence pour le Cameroun de mettre en marche la décentralisation par région.
Et nous avions proposé une décentralisation très poussée avec 4 régions géographiquement homogènes et économiquement viables. Et en soi-disant, justement, l'anglais comme une langue de communication avec l'étranger qui amènerait un développement harmonieux de notre pays.
Sortie opportuniste ou pression de l'opposition camerounaise sur Paul Biya, ces prises d'opposition sont diversement analysées par les politologues camerounais. Simon Roland et Kodomveng, chercheurs en sciences politiques, à la Fondation Paul Angoela, à Yaoundé.
Le Social Démocratique Front veut se positionner comme étant le seul interlocuteur légitime dans la partie anglophone. Le MSC voudrait se sympathiser de la cause des personnes qui ont été arrêtées.
Jusqu'ici, seul le président Paul Biya prend les décisions sur la sortie de crise en zone anglophone. Des décisions qui tardent à ramener la sérénité nécessaire en zone anglophone. Yaoundé, Emmanuel Jouloutap, VOA Afrique.
Retour sur les manifestations d'élèves et étudiants hier au Niger. À l'appel de l'Union des scolaires, ils sont sortis dans la rue pour exiger de meilleures conditions d'études. Les manifestations ont été particulièrement violentes au niveau de l'université. Des affrontements ont opposé forces de l'ordre et étudiants sur le campus. Un étudiant est même décédé. Et les autorités ont décidé de fermer jusqu'à nouvel ordre le campus. Le point avec notre correspondant Abdulrazak Idrissa.
Le bilan de ces événements, selon l'Union des scolaires nigériens, est d'un étudiant mort des suites de ses blessures. Une centaine d'élèves et étudiants auraient également été arrêtés. Le campus est enfermé jusqu'à nouvel ordre sur décision du ministre des Enseignements supérieurs. Beaucoup d'étudiants qui y habitent sont dans le désarroi.
J'habite la cité depuis presque 5 ans maintenant. Et maintenant qu'on nous a chassés, je n'ai pas la voie jusqu'à présent. L'université, c'est pour les étudiants, c'est pas pour les ministres. Moi, je suis là, je reste et j'ai vu beaucoup d'autres qui n'ont pas là où aller, parce que si vous avez là où aller, vous ne pouvez pas rester faire face à des policiers qui sont déjà à côté de vous, surtout quand vous avez vu comment ils ont bien et bien maltraité des gens devant vous. Ils les mettent aux oreilles sur le soleil, ils les ont torturés.
Bon, moi j'ai une famille ici à Niamey, donc pour moi ça ne sera pas trop difficile.
Sita Gabiri est le secrétaire général du comité exécutif de l'Union des étudiants nigériens à l'université de Niamey.
Nous savons très pertinemment que c'est un projet funeste que Ben nourrissait depuis longtemps. Les ministres des enseignements supérieurs, malheureusement aujourd'hui, pour avoir vécu justement à l'université, ils pensent que c'est une stratégie pour démobiliser les étudiants. Il faut tout simplement fermer la cité universitaire. Et ça soulage le gouvernement à partir du moment où même de quoi manger, les étudiants allaient en manquer. Parce que les fournisseurs ne sont pas payés. À un moment, ils avaient dit qu'ils ne vont plus continuer à fournir.
Du côté des autorités, l'on estime que la fermeture du campus est une solution provisoire pour amener la sérénité et dans tous les cas, selon Mohamed Ben Oumar, le ministre des enseignements secondaires, les revendications pour lesquelles le mouvement a été engagé ont été toutes satisfaites.
Les allocations sont en train d'être payées, les bourses sont en train d'être payées. L'aide sociale, on est en train d'ouvrir la réception des candidatures. Ils contestent, ils veulent que nous ne devons pas légiférer dans ce domaine-ci. Or, l'argent public, de par le passé, l'aide sociale a été octroyée sur la base d'aucun texte pratiquement qui mette un certain nombre de balises, un certain nombre de conditions. On ne peut pas être indéfiniment étudiant.
Mardi matin, c'est le calme à l'université de Niamey et dans les lycées et autres collèges de la capitale Niamey, ce malgré l'annonce faite par un des responsables du comité directeur de l'Union des scolaires nigériens, dans laquelle il estime que l'ensemble des scolaires nigériens sont dans un mouvement d'agitation permanente. Abdulrazak Idrissa à Niamey pour VOA Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. voaafrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur voaafrique.com. À tout de suite.
Et nous partons en Côte d'Ivoire, où les producteurs de cacao sont en détresse. Les cours du cacao sont en ce moment à leur plus bas niveau depuis plus de 3 ans. Les stocks s'accumulent. Notre correspondant à Abidjan, Georges Ibrahim Tunkara, est allé à la rencontre des paysans. Mon reportage.
Tous les magasins d'Abidjan sont remplis de cacao. La perte est énorme. Aujourd'hui, il y a plus de 300 000 tonnes qui est entre les mains des paysans. On ne sait pas quoi faire avec.
Du cacao, les paysans ivoiriens en ont en grande quantité sous la main. Et pour s'en convaincre, il suffit de faire un tour dans des zones productrices ou simplement au port d'Abidjan ou de San Pedro. Plus de 30% de baisse des cours sur le marché international depuis octobre dernier. Les conséquences sont ici visibles. Kwame Kwame Jean, producteur à Divo, à 190 km d'Abidjan.
Le cacao, on sait pas comment on va vendre. Ils sont venus, ils ont décidé de donner ça à 7 francs. On va dire quoi? On a accepté pour ne pas que ça reste encore à la base. Actuellement, le cacao est encore sous la main des planteurs.
De 1100 francs CFA le kilogramme, le prix d'achat du cacao aux planteurs est passé à 700 francs le 30 mars dernier. Une chute qui amène de nombreux producteurs à se tourner vers le Ghana voisin. Kone Moussa, président du syndicat national agricole pour le progrès en Côte d'Ivoire, le SINAPSI.
Aujourd'hui, à la frontière du Ghana, les Indiens qui étaient au Ghana, ils viennent acheter le cacao en Côte d'Ivoire, ils prennent le kilogramme 950 francs le kilo. Pendant que le prix est fixé ici à 700 francs, pourquoi il n'y a pas de blocage au Ghana? Pourquoi il n'y a pas de blocage au Cameroun?
Preuve du malaise qui secoue la filière, des producteurs ont manifesté le 17 février dernier à Abidjan avant d'être dispersés par la police. En outre, le syndicat national agricole pour le progrès en Côte d'Ivoire, le SINAPSI, a décidé d'intenter une action en justice à l'encontre du Conseil du Café Cacao, le CCC, l'organe de régulation de la filière. Le CCC est notamment chargé de la gestion d'un fonds de réserve créé en 2012 par l'État pour indemniser les paysans en cas de chute des prix du café et du cacao.
Le cacao est prix fixé 1100 francs garanti. C'est le même cacao qui est revendu sur le marché mondial avec Conseil Café Cacao, 1805 francs. Et donc cet argent qu'ils prennent après avoir enlevé droit unique de sortie de l'État et le revenu que, c'est-à-dire les gens gardent en cas de chute du prix, et ces fonds-là, on nous a toujours dit que ça est là, mais on n'a jamais vu. C'est pour ça qu'on porte plainte.
Boti Bizoua est le président du conseil d'administration de l'ANAPROCI, l'Association nationale des producteurs de café et de cacao de Côte d'Ivoire. Il dénonce lui aussi la mauvaise organisation de la filière.
Une organisation qui échappe aux producteurs eux-mêmes, qui infantilise les producteurs.
Nos tentatives pour avoir des responsables du conseil Café Cacao sont restées infructueuses. Le cacao, c'est 50% des recettes d'exportation de la Côte d'Ivoire. Georges Ibrahim Tunkara, Abidjan, VOA Afrique.
Dans la prochaine édition de Votre Santé, Votre Avenir, nous parlons de la transmission du VIH-Sida de la mère à l'enfant.
En l'absence d'intervention, les taux de transmission vont de 15 à 45%. Des interventions efficaces permettent toutefois de ramener ces taux à des niveaux inférieurs à 5% selon l'OMS.
Pour en parler, nous recevrons comme invité le docteur Jonathan Kaunda. Il est chef du département de la coopération et du partenariat au programme national multisectoriel de lutte contre le sida en RDC. Il nous dira ce que doivent faire les mères séropositives pour éviter de transmettre le sida à leurs enfants.
Nous écouterons le témoignage de M. Ange Mavoula, chargé du suivi et de l'évaluation de l'Union congolaise des organisations de personnes vivant avec le VIH-Sida. Il nous expliquera les difficultés rencontrées par les femmes enceintes et séropositives.
Votre santé, votre avenir est un programme de VOA Afrique diffusé les samedis, dimanche et mercredi à 8h30, temps universel.
Ne manquez pas le rendez-vous.
Et c'est la fin de cette édition à la mise en onde de Georges Léonard Sagnot, présentation Morgane Gaillec. Ainsi va le monde aujourd'hui. On reste en contact sur Facebook et rendez-vous également sur notre site internet voaafrique.com pour l'actualité 24 sur 24. Au revoir.
Écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Bamako sur 102 FM, Raga FM Kinshasa, Soleil FM Conakry,
92.3 FM, Radio Wentanga, Wayeguya, Burkina Faso et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes, Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.